Épisode 3. Quand l'Odyssée d'Homère nous initie à la mort pour enrichir notre vie.
Je voudrais vous parler de l'Odyssée d'Homère, qui est l'un de mes livres cultes. Ah, justement, je l'ai là dans la bibliothèque. Alors, je le prends. Voilà. Je vous lis un extrait de l'Odyssée. Après avoir adressé mes vœux et mes prières aux morts, je saisis les victimes, je les égorge dans le fossé. Et soudain, un sang noir se répand sur les libations.
Les âmes des morts s'échappent aussitôt de l'Érèbe et arrivent en foule. Enfin, l'âme du Thébain Tirésias s'avance en portant un sceptre d'or. Ce héros me reconnaît aussitôt et m'adresse ses paroles. Illustre fils de Laërte, malheureux Ulysse, pourquoi as-tu quitté la brillante lumière du soleil pour venir ici visiter les morts et leur affreux séjour? Éloigne-toi de ce fossé, retire ton glaive aigu afin que je boive le sang des victimes et que je te dise la vérité. À ces mots, je m'éloigne et je remets dans le fourreau mon glaive orné de clous d'argent. Quand le devin irréprochable a bu le sang noir, il me dit « Noble Ulysse, tu désires retourner heureusement dans ta patrie, mais un immortel te rendra ce voyage difficile. Et je ne pense pas que tu puisses jamais échapper au redoutable Poséidon. Le dieu des flots, furieux de ce que tu as privé de la vue son fils chéri, est irrité contre toi. Pourtant, tu arriveras dans Ithaque après avoir souffert bien des maux, si tu peux réprimer tes désirs et ceux de tes compagnons. Lorsque, échappé aux fureurs de la mer et dirigeant ton beau navire vers l'île de Trinacrie, tu trouveras les bœufs et les brebis de l'astre du jour, du soleil qui voit et connaît toutes choses. Si personne d'entre vous ne touche à ces troupeaux, vous reviendrez tous dans votre patrie et vous reverrez l'île d'Ithaque. Mais si vous portez sur ces animaux une main sacrilège, je te prédis la perte de ton navire et la mort de tous tes guerriers. Si tu te sauves, ce ne sera que fort tard et après avoir perdu tes fidèles compagnons. Tu arriveras dans ta patrie sur un navire étranger, et là, tu seras encore menacé par de nouveaux malheurs. Car tu trouveras des hommes orgueilleux qui consumeront tes richesses, et qui, désirant s'unir à ta chaste épouse, lui offriront les présents des fiançailles. Mais toi, tu puniras leur insolence. L'âme du roi Tirésias, après m'avoir prédit l'avenir, retourne dans les sombres demeures d'Hadès. Moi, je reste immobile sur les bords du fossé, jusqu'au moment où ma mère arrive et boit le sang noir.
Il y a eu un moment clé dans l'histoire de l'Odyssée, c'est le moment où elle a été écrite et même, je ne vais pas dire imprimée, mais éditée. À l'époque, ça a été vu comme un scandale. C'est Pisistrate, qui était un tyran, qui a ordonné la première édition. Ce mot est tout à fait... Ce n'est pas du tout le mot qui conviendrait, mais enfin, disons que le texte a été figé, alors qu'auparavant, il ne l'était pas. Ça a été vu comme un scandale, parce que, jusqu'à ce moment-là, l'Iliade et l'Odyssée étaient des textes dits, qui se transmettaient par la parole d'aide en aide. Et quand ça a été figé dans un texte écrit, il s'est trouvé toutes sortes de gens, les plus nombreux, pour affirmer que c'était un scandale, une honte, que l'œuvre y avait tellement perdu. Et vous savez quoi? Ils avaient plus que probablement raison. Il est certain que ce texte a énormément perdu à être figé dans l'écriture. Par ailleurs, si ce texte n'avait pas été figé dans l'écriture, nous ne l'aurions plus aujourd'hui. C'est un cas tout à fait spécial. Et bon, personnellement, je me félicite, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour Pisistrate, qui était un tyran abominable, mais je le félicite d'avoir pris cette décision, parce que sinon je ne pourrais pas aujourd'hui vous parler de l'Odyssée. Je ne vais pas dire que j'ai lu l'Odyssée quand j'étais petite, on m'a parlé de l'Odyssée quand j'étais petite, je me souviens qu'il en était question à l'école, comment ça s'appelait, il y avait eu un dossier de Capi sur l'Odyssée, bon, je voyais que ça existait, je savais que c'était un monument, je savais qu'il était question d'Ulysse, ma mère m'avait raconté un petit peu les histoires d'Ulysse et de Polyphème, bon, je trouvais ça rigolo, mais je me rendais compte que ça devait être un monument, mais que j'aurais accès à ce monument plus tard. J'ai commencé à étudier le grec ancien quand j'avais 12 ans. Quand j'en ai eu 15, là, j'ai senti que je possédais cette langue, vous savez, je ne doutais de rien à l'époque. Hein. Et je me suis dit que j'allais tout simplement retraduire l'Iliade et l'Odyssée. J'étais dans une période de ma vie où mon cerveau n'allait pas très bien, j'étais extrêmement anorexique, je sentais que mon cerveau allait se désagréger, et je me suis dit, mais ce n'est pas grave, je vais retraduire l'Iliade et l'Odyssée, et ça va muscler, ça va être la musculation de mon cerveau. Et ainsi fut fait, je me souviendrai toujours, c'était en novembre, j'avais 15 ans, je me suis isolée avec l'Iliade et l'Odyssée et j'ai commencé ma propre traduction. C'était assez grandiose, je vous vends la peau de l'ours tout de suite, je me suis arrêtée à la moitié de l'Iliade. Mais quand même, je l'ai fait et je me souviens de ces grands moments de ma vie où j'étais seule dans la nature en me disant, eh bien, il m'arrive de grandes choses en ce moment, je suis en train de retraduire l'Iliade. L'Odyssée qui vient après l'Iliade est quand même d'un abord plus facile que l'Iliade. Quand j'étais petite, on me parlait de l'Odyssée. Donc pour moi, le héros d'Homère, c'était Ulysse. C'est aussi bien sûr un personnage de l'Iliade, mais dans l'Iliade, il y a tellement de personnages, il est difficile de savoir qui au juste est le héros de l'Iliade, alors qu'il est très facile de savoir qui est le héros de l'Odyssée, puisque Odyssée veut dire Ulysse, histoire d'Ulysse. L'histoire de l'Odyssée, c'est une histoire très simple. C'est l'histoire d'un homme qui, après une très longue absence due à la guerre, veut rentrer chez lui et retrouver sa femme. On suppose qu'il a vieilli à la guerre. On ne sait pas très bien si la guerre de Troie a duré 10 ans, 20 ans ou une autre durée. Et il met un temps fou à rentrer chez lui parce que d'abord, Troie, c'est pas à côté, c'est l'Asie mineure. Il va retourner en Grèce, enfin dans une île grecque qui s'appelle Ithaque. En chemin, il lui arrive 1000 aventures. On ne sait pas très bien dans quelle mesure Ulysse est complice de ces aventures. Est-ce qu'il est heureux de s'attarder en chemin ou est-ce qu'il est vraiment pressé de rentrer? On est toujours dans l'ambiguïté. Ulysse m'a toujours énormément plu. Pourquoi ? Parce qu'il a plus d'une corde à son arc. J'aime que ce soit un personnage extrêmement composite. On ne peut pas résoudre la personnalité d'Ulysse à un seul trait. Ulysse est terriblement multiple. Et c'est même pas en fonction des scènes, c'est dans chaque scène, il fait un petit peu tout à la fois. Certes, la ruse est peut-être sa principale caractéristique, mais cette ruse même repose sur énormément de vertus annexes, telles qu'une grande écoute de l'autre, une très grande curiosité, une aptitude au mensonge absolument sans limite, un mensonge très bien vécu, sans aucune mauvaise conscience, et même un mensonge bénéfique. Alors, j'aime qu'Ulysse soit extrêmement amoureux de sa femme et aspire à la retrouver, tout en ayant les bras ouverts par rapport à toutes celles qu'il va rencontrer en chemin. J'aime ses paradoxes. Voilà, il est à la fois dans le sublime et dans l'éternel, mais aussi dans le quotidien. Il prend les plaisirs qui passent. C'est vraiment un homme cher à mon cœur. Ulysse, à un moment de l'Odyssée, se rend sur le seuil des enfers parce qu'il a besoin de savoir comment il va faire pour rentrer chez lui. J'adore cette idée. Que les morts puissent nous aider sur notre chemin de vie, c'est tellement vrai. Et ça marche très bien. Aux enfers, il parvient à interroger le fantôme de Tirésias et Tirésias va pouvoir l'aider. Dans cette invocation des morts, il ne rencontre pas que Tirésias, il rencontre aussi Achille, il rencontre aussi sa mère, il rencontre aussi Ajax, qui d'ailleurs refuse de lui parler, ce qui est assez comique. Et c'est une trouvaille merveilleuse, les morts gardent leur personnalité dans les enfers, et surtout ils gardent leur mystère. Penser qu'on va avoir la clé de l'énigme une fois de l'autre côté, c'est de la naïveté. La vie est mystérieuse, la mort est mystérieuse aussi, et l'un ne résout pas l'autre. Comment ça se passe aux yeux des Grecs dans les enfers? Eh bien, les êtres sont des âmes, des ombres qui rôdent, il n'y a plus de corps. C'est un petit peu déprimant, on est un petit peu dans le regret. Bon, c'est pas les hurlements, c'est pas les pleurs et les grincements de dents comme notre enfer à nous. C'est pas très joyeux, c'est très immatériel. Mais ce n'est pas un supplice non plus. C'est aussi ça que j'aime beaucoup dans cette vision mythologique grecque. C'est une vision mesurée. Elle n'est jamais délirante. Il ne faut pas se désespérer. La mort n'est pas la fin. Une chose pourrait encore être possible, mais il ne faut pas se réjouir non plus. Ça ne va pas être Disneyland. Non, ça ne sera pas comme avant. Non, vous ne pourrez pas sauter au cou de votre mère. Voilà, ce sera un petit peu entre les deux. Ne soyez pas trop pressé d'être mort, ça ne sera pas si bien que ça, mais ne vous désolez pas totalement à l'idée d'être mort, parce que finalement, c'est assez supportable. Comme Ulysse, je pense qu'on peut invoquer ses défunts, et j'en ai une véritable expérience. Il y a plus de 20 ans, j'ai perdu un amour qui est mort et qui était pour moi l'être fondamental sans lequel je ne pouvais pas, je n'imaginais pas de vivre sans lui. Je savais qu'il mourrait et ça me paraissait vraiment inacceptable. Pour moi, l'idée de sa mort, c'était la fin du monde. Je me disais, quand il mourra, je mourrai, c'est tout ce qui pourra m'arriver. Je me souviens qu'il me disait, mais tu te trompes complètement, ça va très bien se passer. Et moi, j'étais épouvantée quand il disait ça. Et puis, il est mort. Et dans un premier temps, ça a été juste abominable. Le premier mois, j'ai vraiment eu l'impression de mourir, moi aussi. Et puis, je suis revenue à la vie. J'avais honte, je suis revenue à la vie, même j'allais bien, la vie était de nouveau en moi. Je lui ai parlé, parce que d'abord ça m'a fait énormément de bien de lui parler, et puis parce qu'à force de lui parler, il m'a répondu. Alors c'est bien sûr très très mystérieux, qu'est-ce que c'est que cette réponse? Je le sens qu'il me parle en moi. Alors bien évidemment, tout le monde peut dire, mais oui, mais c'est l'autosuggestion, vous avez tellement envie qu'il vous parle, qu'il vous parle, ou bien c'est des souvenirs... Écoutez, peut-être, je n'en sais rien, je n'ai pas le fin mot de l'affaire, le fait est là, quand j'ai besoin de son aide, j'ai besoin de son aide dans des circonstances bien précises, c'était un homme très très intelligent, très très cultivé, très fin, il y a des cas où je sais qu'il aurait vraiment pu m'aider, donc dans ces cas-là, je lui demande, et je vous assure que j'ai la réponse. C'est vraiment une question d'oreille, il faut tendre l'oreille et entendre la réponse en soi. Et c'est toujours de la même façon que le mort se manifeste par la voix. Personnellement, je n'ai jamais vu mes morts. Peut-être qu'il y a des gens qui les voient, ça c'est possible. Moi, j'ai jamais vu mes morts, mais je les ai toujours entendus. Pas tous, hein, il y en a aussi qui se taisent. Il faut respecter ce droit au silence du mort, et un mort qui se tait n'est pas un mort qui se fiche de vous. Un mort qui se tait, juste, c'est un mort qui a envie de se taire, et c'est un droit. Tout le monde a le droit de se taire, il faut cesser de penser que le silence est insultant, c'est totalement faux. Le silence est souvent même un très très beau cadeau, un signe d'accomplissement. Mais il y a aussi des morts qui s'expriment, qu'on entend en soi, et c'est pas forcément très agréable, même si ça peut être absolument merveilleux. Je pense que nous n'avons rien de plus personnel que notre voix. La voix est probablement ce qui exprime le plus notre âme. La voix n'est pas l'âme, mais c'est ce qui exprime directement l'âme. La voix est très proche du souffle et l'âme est très proche du souffle aussi. Donc il y a consubstantialité entre la voix et l'âme. Je pense que ce n'est pas un hasard si mes morts les plus intimes, aussi bien dans l'amour que dans la haine, se sont toujours exprimés à moi sous forme de voix. C'est le processus du deuil, pour moi, passe par la parole avec le mort. La question est complètement d'actualité. Mon père est mort il y a 8 semaines. Ça a été un choc terrible. Je n'ai pas pu me rendre à ses funérailles à cause du confinement. Ça aussi, ça a été un choc terrible. Eh bien, je ne vais pas vous dire que ça se passe très bien, mais ça se passe. Pourquoi ? Parce que je lui parle. Je lui parle énormément. J'ai l'impression que je lui parle même plus maintenant que de son vivant. quand papa était vivant, je lui téléphonais tous les jours. Nous nous échangeions quelques mots tous les jours. Mais finalement, je lui parle plus maintenant et plus profondément. Je lui dis plus la vérité. La mort n'est pas la cessation de l'amour, ça c'est certain, et c'est un constat extrêmement porteur. Ce n'est pas la fin de la haine non plus, ça peut être très déprimant. Je conseille de nourrir plus l'amour que la haine, parce que ça apporte quand même beaucoup plus de joie. Mais aussi, la mort n'est tout simplement la fin de rien. J'ai fait l'expérience de l'ayahuasca. Qu'est-ce que l'ayahuasca ? Qu'est-ce que le rituel de l'ayahuasca ? L'ayahuasca est une liane qui pousse au cœur de la forêt amazonienne et qui est considérée comme une divinité, comme un trésor par les Indiens d'Amazonie. On l'absorbe sous forme de décoction. On fait macérer de l'ayahuasca avec une autre plante de la jungle qui s'appelle la chacruna. Et prendre l'ayahuasca permet d'atteindre des transes. Et pendant ces transes peuvent arriver toutes sortes de choses. Il m'est d'ailleurs arrivé toutes sortes de choses, mais parmi les choses qui me sont arrivées sous ayahuasca, le moment où la déesse ayahuasca m'a dit « Eh bien, maintenant, les enfers te sont ouverts, donc si tu veux parler à quelqu'un là-bas, c'est le moment. » Alors, à ce moment-là, je voulais parler à l'homme qui est mort, je voulais avoir un contact plus grand. Je n'en ai eu aucun. Je l'ai appelé de toutes les façons, il ne s'est pas manifesté. J'y ai vu quelque chose d'assez positif. Je me suis dit... C'est qu'il est très bien là où il est, c'est qu'il a atteint le grand sommeil, c'est qu'il est heureux et qu'il me fait confiance. Il sait que je vais pouvoir me débrouiller. Ça ne veut pas dire du tout dire qu'il n'en a rien à fiche de moi, c'est qu'il me fait confiance. Mais à ce moment-là, s'est produit une chose que je n'aurais pas voulu. C'est que le mort malveillant, le mort auquel je ne voulais pas du tout avoir affaire, s'est manifesté. Et vraiment, je n'ai pas pu douter que c'était lui. Parce que j'ai reçu un océan de reproches qui étaient exactement les reproches qu'il faisait. Avec sa voix, sa façon très culpabilisante de parler. Et ça me venait là, de façon oblique par derrière moi. Et c'était horrible, je ne pouvais pas m'en protéger, et vraiment il avait le dessus comme de son vivant. J'étais complètement écrasée de culpabilité. Après, bon, quand j'en suis sortie, j'ai raconté mes expériences aux chamans qui m'ont dit « Mais c'est pas vrai !» Et c'est pas parce qu'il le dit que c'est vrai, c'est son point de vue, évidemment que c'est son point de vue. Alors, ils ont dit une chose absolument géniale. Bon, je suis désolée, vous aurez droit à tous les détails. Pour faire fonctionner l'ayahuasca, il faut non seulement l'avaler, mais il faut le vomir. C'est au moment où on le vomit qu'il agit, après le vomissement. Tout cela est extrêmement désagréable. Et puis, vous gardez votre vomi devant vous. Hein. Mais après l'expérience, les chamans m'ont dit... Donc là, dans votre vomi, il y a votre ennemi, puisqu'il vous a parlé. Choisissez une plante dans la jungle et allez mettre ce vomi très spécifique sur cette plante. Et dites-vous bien que tout le mal qu'il vous a fait fera du bien à quelqu'un. Parce que ce qui est toxique pour vous peut être un pain béni pour quelqu'un d'autre. Quand on rencontre ces morts, il y a toujours aussi une expérience initiatique. On va voir ces morts pas uniquement parce qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, mais parce qu'ils ont quelque chose à nous apprendre. Et de fait, ils ont énormément à nous apprendre. Déjà, ils ont à nous apprendre la mort. La mort qui n'est pas une terre étrangère, qui n'est pas... Oui, bon, c'est vrai qu'on n'en revient pas, mais c'est... Quelque part, ce n'est jamais qu'une modification. Je pense que... Il n'y a pas de limite à ce qui s'appelle vivre, et que c'est la principale chose que les morts aient à nous apprendre. Ce que les morts vivent, c'est encore de la vie. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle.